Culture sans frontières, Magda Segertova.
Bienvenue à l'écoute de Culture sans frontières. Histoire, architecture, les mystères des civilisations anciennes. Tout cela est à l'affiche aujourd'hui car je reçois le célèbre scientifique français Joseph Davidovits, spécialiste en chimie et en ciment antique. Sur nos ondes, vous l'avez déjà entendu parler de sa grande invention, les géopolymères, autrement dit des pierres artificielles. Cette fois-ci, Joseph Davidovits vous expliquera sa théorie de la construction des pyramides égyptiennes à l'aide justement de pierres artificielles. La fin de l'émission sera réservée à l'actualité musicale. Joseph Davidovits, inventeur de la chimie des géopolymères, a participé à Prague à un séminaire organisé par l'Observatoire national du bruit, institution qui avance l'idée d'utiliser les géopolymères dans la construction des murs anti-bruit en République tchèque. Le scientifique a également visité le château de Koux en Bohême orientale, où pourraient être restaurées grâce aux géopolymères les célèbres statues baroques de Matthias Bernhard Braun, situées aux alentours de ce château. Qu'est-ce donc que ces géopolymères ou les polymères minéraux, ou tout simplement les pierres artificielles, Joseph Davidovits?
La première qualité est, puisqu'ils sont minéraux, ils ne brûlent pas, alors que ceux du pétrole brûlent. Ça, c'est comme ça que j'ai démarré, pour essayer de créer une nouvelle technologie de matériaux dits plastiques qui soient stables au feu pour l'industrie du bâtiment. Parce que lorsque un plastique brûle, il dégage énormément de fumées toxiques qui sont très dangereuses, et que ceci est un drame. Et qu'on peut le faire avec ce type de technologie. Ça a été mon but. C'est comme ça que j'ai commencé il y a 30 ans. Nous avons atteint ce but. Et en fait, en plus, nous faisons énormément d'autres activités.
Et les autres qualités des géopolymères?
Eh bien, puisque ce sont des pierres que nous reconstituons, nous pouvons stabiliser à l'intérieur toutes sortes de métaux lourds, des métaux dangereux, des radionucléides, des éléments comme l'uranium, parce que ils vont être extrêmement bien consolidés à l'intérieur de cette matrice, et nous pouvons prévoir leur durée de vie. C'est-à-dire que nous avons la réponse à la question qui est demandée toujours par les écologistes et autres lorsqu'on est devant ce type de solution. Êtes-vous sûr que cela va tenir pendant milliers d'années? Nous ne sommes pas sûrs. On n'est jamais sûr, mais nous savons que ce que nous faisons a des équivalents géologiques. Donc on peut tester l'évolution de ces matériaux à partir des éléments géologiques que nous connaissons. On connaît leur évolution dans les différents environnements. Donc on sait que si on utilise ce système pour consolider ces matériaux toxiques, et que si l'ensemble est bien fait, bon, on peut avoir une durée de vie de l'ordre de 10 000 ans, de 100 000 ans. Il n'y a pas de problème contre, lorsque c'est bien fait. Puis en plus, on s'aperçoit que nous avons des équivalents archéologiques, que c'était une technologie qui est en fait à la base de nos anciennes civilisations. En fait, les géopolymères, c'est l'équivalent moderne de la vieille alchimie. Vous savez, les vieux alchimistes qui recherchaient la pierre philosophale. En fait, nous l'avons trouvé. On fait pas d'or avec, mais on fait des choses qui sont bonnes pour nos problèmes du 21e siècle. Mais en fait, pour cela, eh bien, des fois, on repart 4000 ans en arrière parce qu'on utilise des renseignements, des technologies, des matériaux que nous avons découverts avoir été utilisés à ce moment-là.
De la vieille alchimie, il n'y a qu'un pas vers les pyramides égyptiennes. Je vous disais que Joseph Davidovits a formulé sa propre théorie sur leur construction à partir de pierres artificielles moulées sur place. On l'écoute.
En laboratoire, nous faisons des pierres. Et à un moment, il y a 30 ans, en plaisantant avec mes amis scientifiques, des minéralogistes, Je leur ai demandé, dites, la pierre qu'on vient de faire en laboratoire, qui est une sorte de grès, si je la mets dans mon jardin, à Saint-Quentin, au nord de la France, et puis quelqu'un la trouve dans 3000 ans, il va trouver cet élément. Peut-être qu'à l'époque, j'aurais fait une statue, comme j'en fais maintenant. Il va la trouver, il va dire, tiens, c'est de la pierre, ça a l'air d'un grès, mais je veux être sûr, je vais présenter ça à mon ami géologue. Il va regarder avec sa loupe, il va dire, oh, je connais, j'ai déjà vu ça. Je me souviens, j'ai vu ça, il y a des carrières près d'Assouan, en Égypte. Ça pourrait provenir de là. Et donc, comment est-ce qu'ils ont fait pour amener cette pierre d'Égypte ici à Saint-Quentin? Est-ce qu'il y a eu des relations commerciales? Est-ce que quelqu'un est venu avec... Donc, c'est toutes les questions que se posent les archéologues. Et puis, en général, on se dit, ah, tiens, les monuments, on a toujours des problèmes. On se dit, comment est-ce qu'ils ont fait pour transporter ces énormes pierres? Quelquefois, il faut faire 1 kilomètre, quelquefois, il faut faire 10 kilomètres, quelquefois, il faut faire 20 kilomètres. Si c'est naturel, bien sûr qu'il faut faire ça. Mais si c'est ce que nous faisons, bah, il n'y a plus de problème. On transporte tout ça dans des paniers et puis on fait la pierre sur place. Le géologue, il n'y verra rien. Il croira que c'est la pierre naturelle. On trouvera tous les ingrédients de la carrière. C'est évident, puisque c'est ça qu'on utilise. Et puis, on dira, c'est de la pierre naturelle qui a été transportée quelquefois par vos monts et par vos, comment est-ce qu'ils ont fait, il y a tous les mystères qui viennent. Alors que l'homo sapiens, lui, quand il a un problème à résoudre, il raisonne toujours d'une façon intelligente. Tandis que là, on se retrouve toujours devant un raisonnement qui implique que ces gens-là n'étaient pas intelligents. C'était vraiment des bêtes, des abrutis, qui prenaient une pierre et puis qui se disaient maintenant, il faut que cette pierre, je la transporte là-bas. Idiot. Homo sapiens, c'est toujours l'homo sapiens.
On m'a parlé tout à l'heure d'un cheveu que vous avez retrouvé quelque part.
C'est une de mes premières analyses qui a été faite sur une pierre des pyramides. Nous avons trouvé à l'intérieur quelque chose qui n'est pas minéral et qui a l'aspect soit d'un cheveu, soit d'un filament de plante. On ne sait pas exactement. Mais de toute façon, on sait que ce n'est pas un coquillage, que ce n'est pas quelque chose. Et puis autour de cela, ensuite cette pierre a été analysée et on trouve des choses... qui n'existent pas dans la nature, géologiquement. C'est-à-dire qu'on trouve des minéraux qui, dans une pierre de ce type, qui devrait être 60 millions d'années, rendez compte, c'est du calcaire qui date de l'Éocène. C'est au moins 40 millions, c'est au moins 60 millions. Au cours de ces temps, les réactions géologiques ont eu le temps de se faire. Or, on se trouve avec des minéraux qui sont tout jeunes, qui devraient dater de 2000 à 3000 ans. C'est-à-dire qu'ils sont le résultat d'une action de l'homme. Donc c'est bien le résultat de la reconstitution de la pierre. Et si on reconstitue la pierre, ben on va trouver toutes sortes de petites choses dedans. C'est obligatoire. Et c'est là qu'il faut regarder, à condition qu'on en ait l'autorisation. Pour l'instant, le gouvernement égyptien a toujours refusé. Et c'est ça le problème. Nous ne sommes pas acceptés. Parce qu'on préfère avoir les esclaves.
Que peut-on apprendre encore de l'étude des matériaux anciens?
La première différence, c'est que nous, en laboratoire, on utilise nos produits chimiques purs, alors qu'eux, ils avaient des produits impurs. Et en général, nous savons que lorsqu'ils sont impurs, ils sont meilleurs. C'est pas parce qu'ils sont purs qu'ils sont bons, c'est le contraire. Donc il faut trouver quelles sont les impuretés qui ont été ajoutées de manière à pouvoir égaler leur qualité. La connaissance est aussi que cela a été fait avec un tour de main qui est différent de ce que nous. Premièrement, chez nous, il faut que ça aille toujours très vite. En laboratoire, nous faisons des ciments, nous les faisons prendre, il faut qu'en 2 heures, ils soient finis. Bon, bah, peut-être qu'ils le faisaient en 2 jours, hein ? Mais nous sommes impatients. Moi, ce que je dis toujours, lorsqu'on fait nos géopolymères, on viole la nature, on va trop vite. Et j'ai un bon exemple. Lorsque l'on fait une pierre, on la démoule, elle n'est pas belle. Il faut la laisser dehors, il faut la laisser, puis on la regarde 1 an après. Et 1 an après, alors elle est belle. Elle a eu le temps de s'équilibrer, elle a eu le temps. Il suffit de presque rien pour changer complètement l'aspect. Et ceci, c'est une question de temps. Et donc, tout ce que l'on voit dans les musées, Ils ont eu le temps de s'adapter. Vous voyez, 4000 ans, 3000 ans, 2000 ans, il s'en est passé des choses. Et donc, ce que nous faisons, moi je le sais, tous les matériaux, tous les objets, toutes les statues que j'ai depuis 20 ans, ben, sont magnifiques. Et ce que nous faisons un jour après, c'est moche, c'est pas bien. C'est pas beau, mais je sais que ça va devenir bien.
C'était le scientifique français Joseph Davidovits.
Culture sans frontières.
Ida Kellarová, une des meilleures interprètes tchèques de la chanson Tzigane, sort ces jours-ci son nouveau CD. Elle l'a enregistré avec la chorale Apsora, composée de chanteurs amateurs qui ont suivi ses cours à l'École internationale de la voix humaine. Ida Kellarová m'a parlé de cette école qu'elle avait fondée à l'issue de son concert à Prague. Elle part du principe que tout le monde sait chanter.
Vlastně se jedná o ten hlas, který já tomu říkám pravdivý hlas, to je ten hlas, který je u nás každém.
Il suffit de retrouver ce que j'appelle la vraie voix, celle qui est enfouie quelque part à nous. C'est une sorte de thérapie, si vous voulez, mais je ne me considère pas comme une thérapeute. J'essaie simplement de pousser les gens à être créatifs. Je pense que chaque homme est artiste, que nous sommes nés pour créer. Sauf qu'il ne s'agit pas de chanter merveilleusement, mais de chanter vrai.
V těch lidech otvírám, takže ono to není jako o tom, že zaspívat krásně, ale zaspívat pravdivě. Já vždycky říkám, já nikoho neučím zpívat, jo. Celá ta práce spočívá v tom, že těm lidem.
Je dis toujours que je n'apprends pas aux gens à chanter. Je leur apprends à avoir confiance en eux-mêmes, car chacun, et j'en suis persuadé, peut bien chanter. Il arrive évidemment que les deux ou trois premiers jours des ateliers, certains participants ont des difficultés, chantent faux. Mais on n'est pas pressé, on explique certaines choses, on attend. L'important est de savoir qu'on peut faire ce qu'on veut, même chanter faux, pleurer en chantant, tout ça est normal. Et puis, tout d'un coup, au bout de 3 ou 8 jours, le chant s'améliore. Il ne m'est jamais arrivé au cours de ces 20 ans d'avoir en classe quelqu'un qui termine le workshop en disant « je ne sais pas chanter ».
Je by za 10 dní třeba v workshopu někdo odjížděl s tím, že zpívat neumí, to se mě ještě opravdu za 20 let nestalo.
Culture sans frontières, c'est fini. Merci de l'avoir suivi et bonne écoute de la suite de notre programme.
Vous avez dit la réponse.